Coulam.
Chaim Corsia, bonjour.
Bonjour.
Monsieur le grand rabbin de France, merci d'avoir accepté notre invitation à quelques jours des fêtes de Pessah. On va en parler évidemment dans un instant. J'aimerais vous faire réagir à des fêtes société, à des questions d'ordre communautaire. D'abord, on va commencer peut-être par Israël avec les accords d'Abraham. On n'a pas eu l'occasion de vous entendre sur nos ondes depuis ce moment. Cette évolution extrêmement impressionnante de la relation, normalisation des rapports entre Israël et les pays arabes. Vous la placez sous quel angle ? C'est le sens de l'histoire ? On est arrivé à quelque chose qui était prévisible ou il y a une intervention divine ?
Il y a toujours une intervention divine. Mais en fait, c'est le sens de l'histoire. Dans la Bible, Isaac et Ishmaël sont censés représenter le monde juif, le monde, disons, musulman, même si c'est une forme d'anachronisme, se réconcilient pour enterrer un Avraham Terre, pour porter leur mémoire commune. D'où l'idée de ce nom génial, d'accord d'Avraham. Maintenant, je reste fidèle à ce que j'ai dit, et ce que j'ai d'ailleurs déclaré quand ces accords ont été rendus publics, parce que ça se travaille depuis très longtemps, c'est exactement ce que j'avais encouragé à faire dans ma rencontre avec le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, c'est-à-dire de montrer qu'il y a des combats communs à mener contre les extrémismes, parce que cette volonté de segmenter la société, d'opposer les uns aux autres, c'est l'inverse de ce que nos religions nous appellent à faire. Et donc là, on a une convergence de ce que on pourrait appeler une double espérance, l'espérance en Dieu et l'espérance en l'homme. Et je crois qu'il faut saluer les efforts faits de part et d'autre pour briser les préjugés, les images préconçues, briser la volonté des peuples, parfois qu'on enferme dans un rejet de l'autre, probablement pour asseoir un pouvoir qui est en général pas très démocratique dans certains pays, pour dire maintenant, on fonctionne avec un respect de la promesse, de l'engagement, un respect des peuples, un respect de nos histoires et un respect de notre futur. Et je crois que ces accords, qui ouvrent d'ailleurs la possibilité d'autres accords avec d'autres pays encore, sont, allons, disons-le, ce qu'on pourrait appeler dans le judaïsme « ipatrouta de meshirta », le début des temps messianiques.
C'est une excellente nouvelle. Est-ce que vous pensez notamment, ça c'est le sujet, on va dire, pratique de ce rapprochement, que nous avons un combat à mener ensemble par rapport au danger que l'on voit en Europe sur la contestation de la circoncision de la shrita ?
Évidemment. Je dois vous dire qu'on a maintenant une réunion, on a programmé très prochainement avec nos amis musulmans pour ensemble arrêter une stratégie commune de défense de la shrita, non pas simplement de l'abattage rituel, non pas simplement parce qu'on veut manger kasher ou halal, mais parce qu'il en va de la liberté, oui, de la liberté de pratique religieuse. Et qu'on ne peut pas avoir une Europe qui prône la liberté, sauf pour les croyants. Ce serait quelque chose d'indécent que de construire une forme d'espace commun qui nierait la possibilité de pratiques religieuses libres.
Alors, dans le journal du dimanche dernier est paru un sondage tout à fait étonnant sur la perception qu'ont les Français de manière générale par rapport à des minorités. Il s'avère que la meilleure opinion que les Français ont des communautés singulières, ce sont les Juifs qui arrivent à 8% devant les catholiques qui, eux, ont une mauvaise perception à 9%. Il y a un an, la mauvaise perception des Juifs était de 16%, ça s'est divisé par deux. À quoi vous attribuez cette amélioration drastique ?
Écoutez, je ne peux pas me satisfaire, disons, même si c'est 8% de la population qui a une forme de haine des Juifs, disons-le comme ça. C'est tellement énorme, parce que 8% de 66 millions, ça fait frémir. Le seul étiage acceptable, c'est 0% de la population qui porte la haine de quiconque. Porter la haine, c'est le contraire de ce qu'est la France. Se fonder sur des préjugés, des rejets, une segmentation de la société, c'est l'inverse de ce qu'est la France. Donc, on ne peut pas se satisfaire de 8%, même s'il y a une baisse. D'autant que on se rend compte que dès qu'il y a un problème dans le pays et dans le monde, les théories complotistes arrivent avec le virus, les juifs sont coupables. Je ne sais pas moi, le bitcoin augmente, les juifs sont coupables. Le bitcoin baisse, les juifs sont coupables. On voit bien que chaque événement qui se passe, mais c'est tragique, on pourra en rire. Que nous en rions parfois, mais c'est tragique. Parce que la haine sur Internet, maintenant on a vu, cette haine tue. Samuel Paty a été assassiné parce que sur Internet, les uns et les autres, chacun avec son degré de responsabilité, de culpabilité, les uns et les autres ont alimenté cette machine à produire de la haine concrète, qui certes est virtuelle au départ, parce que Internet est censé être virtuel, mais à un moment ça se concrétise, ça se synthétise en un geste d'assassinat insupportable. Moi je pense qu'il y a quelque chose à refonder dans notre société pour bannir et lutter contre la haine et la violence où qu'elle se trouve.
Est-ce que les parlementaires ont un rôle à jouer là-dessus ou on n'a aucune prise sur les GAFA ?
Vous posez la question qu'il faut poser. Et vous le savez, je m'étais élevé, disons-le même assez violemment, contre le Conseil constitutionnel qui avait littéralement saccagé la loi Avia, qui avait été votée par l'Assemblée, qui était enfin chargée de sanctionner financièrement, ce qui est la seule sanction que ces entreprises comprennent, financièrement, les providers, les tuyaux, hein, les entreprises qui mettent en place leur réseau pour que les individus y insèrent leur message de haine. Et je n'arrive pas à comprendre que ces entreprises sont capables d'enlever les messages qui ne leur plaisent pas en un instant, alors que les messages de haine, et en particulier haine antisémite, restent installés sur leur réseau. Et le Conseil constitutionnel a sabré cette loi. Voilà pourquoi j'espère que dans la nouvelle loi sur la réaffirmation des valeurs de la République, le volet concernant la lutte contre la haine en ligne soit renforcé, soit, disons-le clairement, soit sans pitié.
Raïm Korsia, on va parler d'élections, élections en Israël, et puis élections au Grand Rabbinat de France prochainement. D'abord, parlons d'Israël, si vous voulez bien. Nous sommes le 23 mars, pour une quatrième fois, les électeurs israéliens vont se rendre aux urnes. Quelle perception vous avez de ce système politique israélien ? Est-ce que on devrait peut-être essayer de s'inspirer des règles de la Ve République en France ?
Écoutez, moi j'ai pas de leçon à donner aux Israéliens qui sont la seule démocratie clairement démocratique, peut-être même parfois un peu trop, de la région. Donc je trouve qu'il y a une sagesse populaire qui démènera un résultat. Certes, c'est peut-être la quatrième fois qu'ils votent, mais si ce système leur convient, bah, c'est au peuple de décider. Et on ne peut pas dire la volonté du peuple s'exprime quand ça nous arrange, et on l'accepte, et quand ça ne nous arrange pas, ou même si elle est parfois trop juste, en tout cas elle est cohérente, hein, puisqu'elle donne à peu de choses près les mêmes résultats, élection après élection. De toute façon, s'il y a une sorte de cristallisation des blocs politiques, qui sont cohérents. Maintenant, moi, on respecte toujours la décision des gens.
Alors, comparaison n'est pas raison, bien entendu. Les élections au Grand Rabbinat de France ne sont pas des élections démocratiques. C'est pas le peuple qui décide.
Non, pardon. Démocratique, ça veut dire qu'ils respectent une forme de démocratie. Donc,
oui, c'est un suffrage de grands électeurs.
Non, vous ne pouvez pas dire que c'est pas démocratique. Parce que si c'est pas démocratique, c'est antidémocratique. Elles ne sont évidemment pas antidémocratiques. Bien ce sont des délégués. Donc c'est un vote par des grands électeurs, ce qui est un système classique. Je vous signale que nos sénateurs sont élus de cette façon, et je ne pense pas qu'on puisse dire que les élections au Sénat ne sont pas démocratiques. En revanche, voilà, c'est un temps de rencontre, c'est un temps de remise en question, de perspectives à renouveler, à réenchanter, à réinventer. C'est toujours chaque exercice démocratique est toujours un bel exercice.
Alors, ces élections ont lieu quand ? Et j'imagine que vous vous représentez, Raïm Korsia.
Elles ont lieu, on verra comment les choses se passent, parce que la pandémie, on est obligé d'adapter, mais on verra. Le temps n'est pas encore venu de déclarer les choses, de faire. Il faut juste prendre la mesure des choses. En tout cas, moi, pour l'instant, je suis dans l'action, suis au travail, et dans cette vie, il y a beaucoup de travail, et l'enjeu majeur, c'est de faire en sorte que les fêtes de Pessah se passent dans la sérénité et dans la simcha, dans la joie, sans oublier ce qui est très important, je veux vraiment relancer un appel, dans la sécurité sanitaire. Sécurité sanitaire, ça veut dire que les règles que nous avons éduquées au consistoire doivent être respectées. Il en va de la sécurité de tous.
Alors, une communauté qui, à l'instar de l'ensemble de la communauté nationale, est angoissée. On voit ici et là des problèmes d'ordre psychiatrique intervenir, comme dans toute la nation. Les nerfs craquent chez un certain nombre d'entre eux. Le manque de perspective est d'autant plus dramatique que l'on voit les images d'Israël avec le déconfinement, la réussite absolument extraordinaire de la campagne de vaccination et de ce qui s'en est suivi. Quel mot pourriez-vous dire à la communauté pour essayer de les réconforter?
Alors, si vous permettez, je ne pense pas qu'il y ait une sorte d'augmentation de malheur, disons-le comme ça, parce qu'il y a du bonheur en Israël. Parce qu'il y a des moments où nous étions déconfinés, Israël était confiné. Et donc, à un moment, chacun construit son tempo à la fois de vaccination et de protection comme il l'entend. Et donc, ce qui est important, c'est que chacun se place dans une perspective. Israël se place clairement dans une perspective de pouvoir ouvrir après Pessah, ce qui serait une bonne chose parce que je sais, je connais, je vois les difficultés, les peines, les angoisses des uns des autres de ne pas pouvoir se retrouver en famille. Donc, Israël a mis en place une politique très stricte de fermeture des frontières. C'est la liberté de son Israël. Nous avons fait un autre choix, mais maintenant, la machine à vacciner est lancée en France, alors à part des petits ratés de AstraZeneca, mais qui sera, à mon avis, résolu très rapidement. Mais ce qui compte, c'est d'être dans une dynamique. Et cette dynamique, j'espère qu'on l'aura. Maintenant, je vous avais absolument raison. La plus grande difficulté, c'est de s'inscrire dans un temps long, se projeter dans le futur, et cette pandémie empêche de le faire. Mais voilà pourquoi il faut faire un effort pour le faire. L'effort de se dire, je ne me limite pas à ce que je peux maîtriser d'aujourd'hui et demain. On doit construire des projets, se projeter dans des belles fêtes à venir, et c'est ça qui compte. C'est de retrouver notre façon de nous insérer dans le temps. C'est ce que disait Avraham Heschel dans un livre lumineux, nous sommes les bâtisseurs du temps. Nous allons bâtir ce temps d'espérance.
Les fêtes de Tichri pourront se dérouler normalement, selon vous ?
Généralement. Mon enjeu, ce sont les fêtes de Pessah, pour l'instant. Voilà ce que dit le psaume 68. Baruch Hashem Yom Yom. Source de bénédiction soit du Seigneur, jour après jour. Je ne suis pas encore dans Tichri. Beaucoup de gens avaient prédit que Tichri dernier ne se passerait pas de manière sereine. Ça s'est passé de manière remarquable avec une mobilisation de chacun et de chacune. Et donc, il n'y a aucune raison qu'il en aille autrement. On est sur la préparation des fêtes de Pessah. On est en train de suivre jour par jour la distribution des produits, la distribution des paniers de Pessah. Et je crois qu'au-delà des préparatifs de la fête, il y a aussi le fait de s'occuper de celles et ceux qui ont besoin, qui attendent de nous quelque chose, et peut-être qu'avec ce temps de pandémie, il y a encore plus de besoins, c'est ce qu'on a vu pour les paniers de Pessah, et moi je suis admiratif de la mobilisation de toutes les institutions communautaires, mobilisation des jeunes, des moins jeunes, qui ont livré les paniers partout, et un nombre très très important cette année. Donc voilà, n'oublions pas celles et ceux qui ont besoin de nous, et passons des fêtes dans la joie.
Eh bien, c'est un message d'espoir et avec beaucoup d'humanité et d'humour, parce que vous en avez beaucoup. J'ai eu le plaisir de vous recevoir à nouveau aujourd'hui sur Koulam Radio. Monsieur le Grand Rabbin de France, Pessah Kacher et sa mère.
Bonne fête de Pessah et que ce soit à la fois le partage de l'espérance, de la joie et de la confiance. La confiance, c'est ce qui nous a toujours animés, c'est ce qui nous a toujours portés, confiance dans l'avenir, et cette capacité de rêver l'avenir, c'est peut-être ça le propre du judaïsme.
Merci beaucoup, Raïm Korsé, à très bientôt. Koulam.